Cours d'histoire. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès.
Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire. Cours d'histoire un peu particulier puisqu'enregistré en partenariat avec Outre-mer Développement. Vous ne le savez peut-être pas, mais Storia Voce est partenaire du prix d'histoire d'Outre-mer. Michel Bach-Trobel a remporté l'édition 2019-2020 pour son livre sur les orpailleurs du Maroni. Il s'agit d'une histoire des sociétés et nous allons rester dans ce champ d'études en nous éloignant de la Guyane. Nous allons parler en effet aujourd'hui et lors des deux prochaines émissions de nos cours d'histoire des Indiens des Petites Antilles au temps moderne. Trois émissions donc, une première consacré à cette population. Qui sont-ils exactement, ces Indiens des Petites Antilles? Leur vie quotidienne dans une deuxième émission et enfin, dans un troisième volet, nous verrons les Amérindiens et les Français dans les Petites Antilles, quelles étaient leurs relations. Benoît Roux, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes docteur en histoire, ingénieur d'études à l'université de Rouen, Normandie. Votre thèse de doctorat est précisément consacrée l'histoire coloniale et à l'histoire indienne. Généralement, ce sont deux domaines un peu séparés et vous avez souhaité vous casser les codes et nous nous en réjouissons. Vous avez souhaité traiter des deux sujets, des deux champs d'études en même temps.
Effectivement, en général, on a d'un côté l'histoire coloniale et notamment l'histoire des institutions coloniales et de l'autre une histoire amérindienne qui était plutôt le domaine des archéologues ou des ethnologues et finalement très peu le domaine des historiens. L'idée, effectivement, c'était de réunir ces deux histoires pour voir un petit peu comment se passent les relations entre Français et Amérindiens dans les Antilles au XVIIe siècle et en allant piocher comme ça dans d'autres disciplines aussi que sont l'archéologie, l'ethnologie ou la linguistique.
Votre champ de recherche, on va revenir sur les Petites Antilles, mais c'est bien l'époque moderne, on va dire du 15e au 17e, 18e siècle.
Oui, voilà, exactement. Alors du 15e au à la fin du 17e, donc jusque dans les années 1660, 1670, quand le modèle colonial va se modifier, notamment avec sous l'impulsion de Colbert.
Alors quand on évoque les Petites Antilles, où se trouvent-elles ces Petites Antilles?
Alors c'est vrai que le nom est très évocateur et fait rêver, mais on a souvent du mal à les situer sur une carte. Alors les Petites Antilles, pour les francophones, c'est surtout la Guadeloupe et la Martinique. Ce sont toutes ces îles, en fait, un chapelet d'îles entre, en gros, Porto Rico et le continent sud-américain. Donc voilà.
Alors, les Indiens des Petites Antilles, entre fantasme et réalité, c'est le premier volet de nos cours d'histoire. Qui sont ces populations amérindiennes des Petites Antilles, Benoît Roux?
Alors ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'à l'arrivée des Européens dans la Caraïbe à la fin du XVe siècle, l'archipel, lui, est occupé depuis près de 5 millénaires par des populations amérindiennes qui sont venues en fait du continent par vagues successives. Au groupe de chasseurs, pêcheurs et cueilleurs qui étaient a priori nomades à la période pré-céramique, va succéder à partir du VIe siècle de notre ère des populations d'agriculteurs céramistes, eux sédentaires, et qui sont venus des Guyanes et du Venezuela. Ces sociétés qui sont relativement homogènes culturellement occupent un territoire qui est en gros circonscrit au départ aux îles orientales de la Caraïbe et conservent donc du coup des relations extrêmement étroites avec le continent. Mais au 7e et 9e siècle, cette apparente unité de ces groupes va en fait se disloquer pour une raison qu'on comprend mal encore pour l'instant, mais ça va laisser émerger toute une mosaïque culturelle complexe à l'échelle de l'ensemble de l'archipel, avec les Petites Antilles, les Grandes Antilles et les Bahamas, marquées par le développement de cultures insulaires propres pour ces trois espaces jusqu'au 15e siècle, donc jusqu'à l'arrivée des Européens.
Comment s'opère le contact entre ces sociétés autochtones des Petites Antilles Et les Européens, donc, à la fin du XVe siècle?
Alors, c'est un peu un contact en deux temps, puisque le 12 octobre 1492, Christophe Colomb va arriver dans les Bahamas, puis dans les deux mois qui vont suivre, il va remonter le long des côtes de Cuba et de Saint-Domingue. En fait, les Petites Antilles, elles, ne seront explorées que lors du second voyage, l'année suivante, en 1493. Seulement, l'ombre inquiétante d'Indiens que les populations des Grandes Antilles auraient dépeint aux Espagnols comme des guerriers féroce et désigné par le mot de cannibales ou caribes, qui donnera Caraïbes en français, plane dès le premier voyage. 10 mois plus tard, lors de son second voyage, Colomb et son équipage vont aborder la Guadeloupe, le 4 novembre 1493 exactement, et finalement, aux premières impressions extrêmement idylliques, hein, c'est une île paradisiaque pour les Espagnols, succèdent des témoignages des marins. Alors je ne résiste pas à vous lire un petit passage de ce récit des matelots de Colomb. Le capitaine entra dans les maisons où il trouva les objets qui appartenaient à ces gens. Il y trouva beaucoup de coton filé, et prêt à être filé, ainsi que des victuailles, et il ramena un peu de tout, et en particulier 4 ou 5 os de bras et de jambes humains. Dès que nous vîmes cela, nous soupçonnâmes que ces îles étaient celles des Caribes, qui sont habitées de gens qui mangent la chair humaine, parce que l'amiral, suivant les indications que lui avaient données les Indiens des îles découvertes précédemment, avait modifié la route pour les découvrir. Alors évidemment, l'interprétation de ces restes humains va paraître comme une preuve d'anthropophagie et non comme une preuve d'un rituel funéraire, hein, ce que ces restes sont en fait ici. Et ça va rapidement être étayé aussi parce que Colomb croit comprendre en fait des femmes amérindiennes de l'île. Il pense comprendre qu'elles sont sous le joug des hommes et qu'elles sont tenues en esclavage par ces guerriers extrêmement cruels. Dès lors, finalement, la figure du Caraïbe ou du cannibale, hein, construit a priori, se trouve indissociablement liée aux populations indigènes des Petites Antilles.
C'est intéressant parce que l'horizon d'attente des Européens est largement empreint d'une vision, j'allais dire, extraordinaire, une vision légendaire de l'étranger qui est héritée des récits de voyages médiévaux, ceux de Marco Polo, ceux de Jean de Mainville, pour ne citer que les plus lus à l'époque. Cette appréhension du monde a-t-elle influencé la rencontre avec les Indiens des Petites Antilles?
Alors effectivement, beaucoup de chercheurs ont souligné l'intrication extrêmement forte entre l'imaginaire et le réel, entre le mythique et l'historique dans l'entreprise anthropologique de Christophe Colomb. En outre, on sait bien l'obsession qu'était celle de l'amiral pour l'Extrême-Orient, et notamment pour les cités du Grand Khan qu'il pense découvrir. Alors effectivement, lorsque les Indiens des Grandes Antilles lui parlent des cannibales, Colomb va se laisser guider en fait par la proximité phonétique pour les associer d'abord à des cynocéphales, hein, canis en latin. Il pense que ce sont des hommes à tête de chien, tels que ceux qui sont décrits par Marco Polo et Jean de Mandeville, effectivement. Puis par un télescopage sémantique, hein, Franck Lestringant lui parle de mots valises, par ce télescopage sémantique à des habitants du royaume du Grand Khan. Hein, les cannibales, ce seraient les sujets, finalement, du Grand Khan. Et puis il va y avoir une escarmouche assez violente avec ces cannibales au large de l'île de Santa Cruz le 14 novembre 1493 qui va conforter Christophe Colomb dans cette intuition. Il est face à des populations autochtones qui sont effectivement bien plus redoutables que celles rencontrées jusqu'alors. Et c'est là finalement que le récit du navigateur génois va poser en fait le jalon initial d'une longue tradition anthropologique qui va opposer le bon sauvage des Grandes Antilles au mauvais sauvage des Petites Antilles. Finalement, le mot avant la chose, c'est l'ordre dans lequel en fait s'est construit la figure du Caraïbe.
Finalement, on peut même dire que les Indiens Caraïbes n'existent pas, sait-on ? Comment eux-mêmes se percevaient et se désignaient?
Alors, les populations caraïbes, enfin les populations amérindiennes des Petites Antilles, sont des populations de tradition strictement orale. Hein. Nous n'avons aucun témoignage direct de leur part. À titre de repère, la première mention d'un récit amérindien dans les Petites Antilles date de 1663, donc c'est extrêmement tardif. Et qui plus est, il ne s'agit que de marques, de signatures sur un contrat de cession de l'île de Sainte-Lucie aux Anglais. Aussi, les voix des Amérindiens ne nous parviennent jamais directement pour nous les historiens, toujours au travers des auteurs européens des 15e et 18e siècles. sont donc souvent recomposés, parfois réinventés. Alors néanmoins, on a la chance d'avoir tout le travail linguistique qui a été mené par un dominicain qui s'appelle Raymond Breton au milieu du XVIIe siècle, auprès des Indiens de l'île de la Dominique. Et Raymond Breton nous dit que ces hôtes s'auto-désignent par le vocable Kalinago. Donc Kalinago, c'est le mot que j'emploierai désormais pour désigner ces Indiens.
Avec un K.
Voilà, exactement, avec un K. Alors l'origine de ce terme est assez confuse. Hein. J'ai essayé un petit peu de démêler cet écheveau dans ma thèse. Parce que le mot Kalinago s'appuie sur une racine qui désigne en général plutôt l'autre dans quasiment toutes les langues du bassin guyano-amazonien, et pas du tout qui sert à s'auto-désigner. Donc il y a eu sans doute un glissement sémantique à un moment, peut-être au XVIe siècle, là on n'a pas d'attestation de ce mot Kalinago avant le milieu du XVIIe siècle. En tout cas, voilà, on sait qu'au XVIIe siècle, les Indiens de la Dominique se désignent ainsi.
De quelles sources dispose l'historien ? On le disait tout à l'heure au début d'émission, vous vous situez à la fois sur l'histoire de la colonisation, de l'histoire indienne. Or, vous venez de le dire, l'histoire indienne, c'est une culture orale. Nous n'avons pas d'écrit.
Alors effectivement, nos sources sur les Indiens des Petites Antilles sont exclusivement européennes et en français pour l'essentiel. Alors ce sont des récits de voyage, des relations missionnaires, des correspondances coloniales, des histoires ou encore des dictionnaires. Hein. Je citais tout à l'heure le travail linguistique de Raymond Breton. Il nous a laissé deux dictionnaires et une grammaire. Donc tout un tas d'une importante documentation qui est aujourd'hui conservée dans les bibliothèques et les archives aux quatre coins de l'Europe. Et tous ces témoignages, en fait, décrivent finalement les Kalinago depuis l'extérieur. Hein. Leurs auteurs sont marqués par leur propre époque, leur milieu social, leur culture, leurs intérêts personnels, et vont finalement souvent plaquer sur les réalités indigènes qui sont plus ou moins à même de comprendre, hein, leur propre conception. Ce qui fait que finalement on a une figure de l'Indien à travers toute cette documentation qui est rationalisée à l'aune des valeurs morales et normatives occidentales du temps. Du coup, finalement, ces descriptions s'offrent moins comme des esquisses anthropologiques ou ethnologiques, on dirait aujourd'hui, mais vraiment comme une image en creux des Européens de l'époque, ce qui donne, par exemple, cette litanie qu'on retrouve extrêmement souvent dans les sources. Hein, les Caraïbes sont sans foi, sans loi, sans roi. Ils sont tout le contraire des Européens. Il manque l'essentiel, finalement, aux Caraïbes, la foi, la loi et un roi. Donc évidemment, c'est pas à prendre au pied de la lettre, hein, mais c'est vraiment une image en négatif. C'est un peu le constat documentaire sur lequel je suis parti au début de la thèse et qui m'a amené finalement à aller voir et à emprunter aux autres sciences humaines, donc la littérature, l'ethnologie, l'archéologie, et puis aussi à mobiliser différents types de sources, hein, des sources archéologiques, mais aussi des sources muséales.
Alors justement, les sources archéologiques, les apports de l'archéologie dans le renouvellement de la connaissance de ces populations a opéré.
Alors pour bien comprendre la manière dont l'archéologie a joué un rôle majeur dans notre connaissance de ces populations, il faut faire une chronologie rapide de ce qu'est la recherche archéologique dans les Antilles depuis le début du XXe siècle. Alors jusqu'au tournant des années 60, l'archéologie en gros va chercher en vain à trouver dans le sol des preuves matérielles pour étayer les récits des 16e, 18e siècles qui évoquaient notamment une migration violente hein, des Kalinago du continent vers les îles peu avant l'arrivée des Européens. Ça peut presque dire toutes les sources hein, du 16e, 18e siècle. Évidemment, les archéologues n'ont pas trouvé de traces de ces migrations, de cette migration violente, et au cours des deux décennies suivantes, donc en gros dans les années 60 jusqu'au début des années 80, on va assister à un rejet de ce cadre interprétatif hérité des sources coloniales, et finalement à un développement en autonomie de l'archéologie. Alors cette remise en cause violente et durable de la fiabilité des sources coloniales va aboutir en fait à un renouvellement en profondeur des deux disciplines, historique et archéologie, qui vont suivre pendant quelques années des chemins différents. En tout cas, les programmes de recherche des années 80-90 pour l'archéologie va donner en fait les grandes orientations qu'on connaît jusqu'à nos jours. Alors on va assister à des excavations par exemple de surfaces plus étendues, on va se mettre à fouiller des grandes surfaces, et puis on va commencer à lire les sites de manière synchronique pour permettre de mieux appréhender finalement les pratiques et les comportements socioculturels des populations étudiées. Logiquement, donc, les problématiques qui jusqu'à présent étaient extrêmement axées sur les questions chronologiques, hein, on cherchait à valider les chronologies établies au XVIe, XVIIIe siècle, vont se diversifier. C'est notamment l'introduction de l'archéobotanique, de l'archéozoologie ou de l'anthropologie funéraire. Et finalement, à la faveur de ces évolutions disciplinaires, on va découvrir les premiers sites qui sont dits caillots. Alors, on appelle en général dans la Caraïbe les sites, enfin les styles, en fonction du premier site découvert, donc le style caillot, qui est donc le style qui serait rattachable finalement à la culture matérielle des Kalinago. Alors du coup, un nouveau scénario s'en dégage. A priori, il y aurait eu un accroissement démographique en fait sur le littoral des Guyanes vers le XIIIe, XIVe siècle, qui aurait pu pousser une partie des populations à se déplacer vers l'archipel antillais. Et donc avec cette datation tardive, hein, 13e, 14e siècle, on est a priori en face avec le style caillot du style qui correspond à la culture matérielle de nos Indiens des Petites Antilles rencontrés par Colomb.
Alors justement, pour mieux connaître cette culture matérielle, on imagine que les esprits lettrés hein, des 16e, 17e, 18e siècle ont rapporté des objets avec eux. Nous en avons en notre possession.
Alors effectivement, dès les premiers contacts, hein, les cultures matérielles exotiques vont fasciner autant qu'elles vont intriguer les Européens, au point que certains objets vont devenir véritablement des pièces de collection et des ornements obligés des premiers cabinets de curiosité. Hein, les kayaks, les canoës, les hamacs, voilà, quasiment tous les cabinets de curiosité, les grands cabinets de curiosité des 16e, 17e siècle ont ces pièces-là dans leur cabinet. C'est aussi important de ramener des objets parce que c'est aussi la preuve de cette altérité. Hein. Colomb, le premier, va ramener un certain nombre d'objets. On a comme ça aujourd'hui un certain nombre d'objets de l'industrie taïno, c'est-à-dire l'industrie des Indiens des Grandes Antilles, qui ont intégré les cabinets de curiosité au XVIe siècle, notamment les cabinets de curiosité italiens, et qu'on connaît encore aujourd'hui, et qui avait notamment fait l'objet en 94 à Paris d'une très grande exposition sur l'art des sculpteurs taïno. Pour les petites Antilles, le tableau est un peu différent puisque jusqu'à la fin des années 2000, les chercheurs s'étaient assez peu intéressés aux objets ramenés des petites Antilles durant l'Ancien Régime. On en connaissait l'existence par les sources anciennes. Hein. Un certain nombre de chroniqueurs, notamment, disaient avoir ramené des objets avec eux. Mais on en perdait la trace, finalement, et on n'arrivait pas à identifier des objets des petites Antilles dans les musées modernes. C'est finalement sur cet état de l'art un peu paradoxal qu'une enquête documentaire a été initiée et coordonnée par André Delpech, qui est aujourd'hui le directeur du Musée de l'Homme et qui était alors le conservateur général du patrimoine responsable des collections des Amériques au musée du Quai Branly. Et alors depuis 2012, avec donc André Delpech, on a initié ensemble une grande enquête documentaire dans les archives, à la fois les archives anciennes, mais aussi dans les fonds muséaux, justement pour restituer l'histoire de ces collections. Cette première étape d'un programme qui est nécessairement plus vaste, hein, qui va aussi associer des chimistes, des physiciens pour des analyses de matériaux, pour des datations aussi, mais cette première enquête documentaire nous a déjà permis d'identifier pour le seul musée du Quai Branly environ 400 pièces qui pourraient provenir des Antilles, ou en tout cas du bassin antillo-guyanais, qui serait arrivé donc en France avant la Révolution française. A priori, l'étude de ces objets hein, devrait nous permettre d'enrichir notre connaissance de la culture Kalinago, et on a commencé déjà à jeter quelques jalons autour d'objets, comme par exemple les massues caraïbes.
Alors peut-être une dernière question, après plus de 5 siècles de colonisation, les Kalinago sont toujours présents dans l'archipel ?
Alors oui, c'est quelque chose qui est souvent assez méconnu et qui étonne beaucoup quand je l'évoque, c'est qu'aujourd'hui il y a encore 3000 Kalinago hein, qui vivent dans les îles de la Dominique, donc qui est située entre la Martinique et la Guadeloupe. Il faut savoir qu'en 1903, les autorités britanniques ont institué une réserve autochtone dans une des parties reculées et montagneuses de la côte atlantique de cette île. Actuellement, il y a 8 villages dans un territoire qui fait 15 km². 8 villages qui sont administrés par un conseil, avec à sa tête un chef élu tous les 5 ans par les habitants. Et on a vu, justement, au XXIe siècle, une certaine résurgence hein, de la communauté de sa une volonté de se réapproprier, de préserver sa culture. Donc voilà. Par ailleurs, les survivances amérindiennes sont nombreuses, hein, dans la culture créole en général. Au plan culinaire, c'est évidemment l'utilisation du manioc, notamment pour la fameuse galette de manioc, la cassave, l'utilisation du piment. Donc voilà, ça c'est les usages les plus connus. De même, l'organisation aujourd'hui, même encore, de l'espace traditionnel domestique doit beaucoup aux formes amérindiennes. Et puis, on ne peut pas clore ce moment sans évoquer évidemment le hamac à la sortie de l'été que les Européens ont emprunté très tôt aux Indiens des Petites Antilles.
Eh bien, c'est sur cette image du hamac que nous allons laisser nos auditeurs. Merci beaucoup, Benoît, d'être venu au micro de Storia Voce. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre cours d'histoire consacré aux Petites Antilles. Il me reste à vous remercier aussi, chers auditeurs. N'oubliez pas que notre radio est une radio associative, qu'elle ne peut vivre que grâce à votre soutien. Si vous pouvez nous soutenir, rendez-vous sur notre page d'accueil dans la rubrique « Soutenez Storia Voce ». Vous pouvez, contre un don, recevoir un livre grâce à nos partenaires éditeurs. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.